RCF. Bonsoir à tous, le magazine régional avec RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes, avec un direct dans quelques instants avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort qui est en direct de Lourdes. Il est le président de la Conférence des évêques de France. Avec nous ce soir Alexis. Alexis, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver.
Alors en quelques secondes, avant de retrouver Mgr Éric de Moulin-Beaufort, le sommaire de l'édition, rapidement Alexis.
On sera avec Jean-François Boulanger que l'on retrouvera exceptionnellement à 18h20 à propos de Charles Piaget, le maître des horloges. On ira faire également un tour du côté d'Inchères dans la Marne. Jean-Pierre, ça sera avec vous un maire qui vous parle.
Oui, Marcel Bensivengo.
Et puis on rencontrera Thiébaut Hubert, président de l'association Canopée. C'est une association viticole. Et également, on ira faire un tour au stade en présentant la nouvelle application Stadium Go, la plateforme de covoiturage spécifique pour les supporters. Avant de vous céder la parole, Jean-Pierre, l'actualité politique de la journée, c'est Jean-Marc Roos qui succède à Christian Bruyen. Il a été élu avec 32 voix contre 14, président du conseil départemental de la Marne ce matin.
Merci Alexis. Tout de suite, on prend la direction de Lourdes où en direct avec nous aujourd'hui, nous avons Mgr Éric de Moulin-Beaufort qui est archevêque de Reims, tout le monde le sait ici dans notre diocèse, mais aussi président de la Conférence des évêques de France. Mgr Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Alors on vous a vu tout récemment, c'était hier en particulier, dans le jour du Seigneur, pendant plus d'une heure avec la célébration et l'interview que vous avez réalisée. Vous êtes à Lourdes, il y avait autour de vous, on a vu en image tous ces évêques français et puis aussi des personnalités du monde protestant, orthodoxe, puis il y en avait beaucoup d'autres. Alors comment vivez-vous globalement cet événement, Monseigneur, comme président ?
Ah, bah écoutez, je le vis cette assemblée très heureusement parce que ce sont des rencontres, comment dire, à la fois paisibles et profondes. Nous avons eu notamment sur le thème de la mission, qu'est-ce que c'est que annoncer l'évangile aujourd'hui, des échanges très très riches, très très approfondis. Voilà, nous avons écouté aussi le service des relations avec les musulmans qui fêtent ses 50 ans. Et ça a été l'occasion d'échanges aussi très profonds et très intéressants. La présence des évêques aussi qui représentent des conférences épiscopales d'Europe a permis, notamment le soir, voilà, un partage assez libre sur ce que vivent nos différentes églises dans les différents pays. Et voilà, tout ça est enrichissant et réjouissant. Voilà, dans le beau cadre de Lourdes, où il a beaucoup plu, mais maintenant il se met à faire, depuis hier, il fait beau et doux, donc c'est aussi en plus agréable, voilà, intéressant et agréable.
Alors Monseigneur, c'est vrai qu'au cours de cette célébration hier que nous avons suivie sur France 2, il y avait votre homélie, bien entendu, et puis à un moment donné aussi, il y avait dans la prière universelle, une prière aussi pour la paix, une prière qui s'est prolongée et qui rejoint l'actualité.
Voilà, ben, ils ont prévu depuis un moment de prier pour l'Ukraine, parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre se continue en Ukraine, une espèce de guerre de tranchées, un peu comme dans la Première Guerre mondiale, malheureusement, avec quand même toujours des morts, des mutilés, des blessés, des destructions, et il faut vraiment continuer à porter cette attention à ce qui se passe là-bas. Il y a l'Arménie, en particulier au Karabakh, mais surtout l'Arménie, bon, la guerre est terminée, mais l'Arménie accueille 100 000 réfugiés, ils sont accueillis dans des familles, puis pour ceux qui ont pu l'être, et puis ailleurs. La République d'Arménie est un pauvre pays qui a bien du mal à le faire, mais qui accueille ses frères et ses sœurs, bien sûr, mais pour qui ça pèse très lourd. Donc il était bien que nous puissions prier pour l'Arménie, et les Arméniens de façon plus générale, le peuple arménien qui se sent menacé. Et puis c'est ajouté évidemment la prière pour à la fois nos frères juifs, frères et sœurs juifs, qui portent tellement douloureusement les massacres affreux qu'ils ont subi le 7 octobre, et puis les otages qui sont toujours retenus, et puis d'un autre côté, la population de Gaza qui se trouve prise dans une nasse et soumise à des bombardements terribles, avec des morts civiles, des destructions effrayantes. Et voilà, nous prions avec beaucoup de force pour que des artisans de paix se lèvent, pour que les uns et les autres se décident à chercher les voies d'une solution politique et et non pas par la violence, par l'écrasement de l'autre.
Vous avez évoqué, on l'a entendu sur plusieurs antennes, le thème de la mission. Et on imagine qu'entre évêques, en dehors des rencontres officielles dans la journée, vous échangez beaucoup entre vous dans les repas, dans des rencontres informelles. Et ça aussi, ça doit aider au débat, aider à la connaissance des évêques entre eux.
Voilà, tout à fait. Ça, les apartés comptent beaucoup. Et puis nous avons organisé hier une discussion là pendant une heure où chacun une heure et demie même, chacun présentait des initiatives prises dans son diocèse. Alors, nous ne vivons plus dans un temps où l'air qui était respiré était un air chrétien, où le nom de Dieu disait quelque chose. Donc qu'est-ce que ça veut dire vivre en chrétien et rendre compte de sa foi dans un monde sécularisé où tout le monde ne comprend pas très bien ce qu'on veut dire quand on parle de Dieu, et dans un monde aussi où il y a toutes sortes de religions et où on a appris à reconnaître dans les religions aussi des traces de l'Esprit-Saint, et peut-être dans certaines formes de non-religion aussi, d'action d'Esprit-Saint. Comment nous mettre vraiment au service de l'œuvre de Dieu qui veut sauver les hommes, les êtres humains, aujourd'hui, dans notre contexte du XXIe siècle. Voilà, qui nous fait beaucoup, beaucoup réfléchir et beaucoup prier, méditer ici. Et après, comment est-ce qu'on traduit ça, et quelles convictions qu'on peut avoir dans notre vie pastorale ordinaire.
Évidemment, Monseigneur, les travaux vont se poursuivre demain et après-demain. Vous allez aborder d'autres sujets, d'autres thèmes, d'autres questions.
Oui, alors on va tout approfondir. Hein. Nous avons encore un échange sur les relations, sur notre service national des relations avec les musulmans. Nous avons encore un temps consacré à la mission, et nous essaierons de voir comment nous pouvons continuer ce travail dans la suite pour que l'Église soit vivante. Hein. Nous accueillons beaucoup de catéchumènes, beaucoup de candidats au baptême. Il faut sûrement que nous repensions un petit peu nos équipes d'accompagnement des catéchumènes, nos équipes d'accompagnement vers le mariage et vers la vie conjugale, etc. etc. Donc on va continuer ces échanges demain, et puis mercredi, on tâchera de conclure.
Et souvent est évoqué, Monseigneur, peut-être on se trompe en le disant, mais au moment quand on accueille des personnes qui demandent un sacrement, plutôt que, bon, il faut parler du sacrement lui-même, mais il faut faire une initiation finalement à la vie chrétienne, sans trop forcer les personnes. Ça exige beaucoup de délicatesse, de finesse, de connaissance aussi, donc de formation.
Oui, très bien, vous l'exprimez très bien. Un évêque a souligné que, il faut en quelque sorte engendrer, aider à naître à la vie chrétienne. Il ne s'agit pas de simplement préparer un jour, une cérémonie, choisir des textes et des chants, mais il s'agit de se préparer à la vie chrétienne dans la longue durée de sa vie. Et la vie chrétienne, elle passe par des combats contre soi-même en particulier, pour grandir, pour se libérer un peu de soi-même et d'un faux soi-même et devenir celui ou celle que Dieu attend. La vie matrimoniale, la vie conjugale, la vie familiale demande aussi tout un travail intérieur. Et c'est à ça que nous devons de plus en plus nous aider, parce que nous sommes dans des sociétés qui se transforment, parce qu'on ne vivra pas exactement comme nos grands-parents, en tout cas, mais sans doute pas comme nos parents non plus. Enfin, les jeunes d'aujourd'hui ne vivront pas comme nous, pas exactement de la même manière. Donc il faut prendre les choses par l'intérieur, par la profondeur, par l'engagement de la liberté de chacun. Et donc il faut s'accompagner, s'entraider, se soutenir. Voilà, ça demande de repenser un petit peu tous nos dispositifs, et ça, c'est très passionnant.
Monseigneur, pour terminer, on aime bien savoir un petit peu quel est le programme du soir. Vous avez encore des réunions le soir, des rencontres?
Alors ça dépend des soirs. Le soir, nous avons un dîner dans un... proposé, personnellement j'irai, dans une œuvre qui s'appelle le Cénacolo, qui est une œuvre qui reçoit des jeunes adultes en difficulté, qui ont pu être drogués, qui ont pu être un peu dans la délinquance, etc., et qui essaie de les aider à se remettre sur pied. J'en saurai un peu plus, je dois dire, après avoir passé cette soirée avec eux. Voilà, il y a avant-hier soir, il y avait un échange avec les évêques représentant les autres conférences épiscopales, et le tout premier soir, nous avions une soirée entre évêques de la même province. Voilà, donc vous voyez, à part dimanche soir, tous les soirs, il y a un thème.
Merci en tout cas, Monseigneur Éric de Mounabeaufort, d'avoir été avec nous en direct depuis Lourdes. On se retrouve vendredi dès 7h et à très très bientôt sur RCF, puisque nous sommes en direct. Nous allons poursuivre notre magazine avec Alexis qui est à mes côtés. Et à très très bientôt, Monseigneur. Bonne soirée.
Merci,
au revoir.
Jean-Pierre, merci et à bientôt à tous et à toutes.
Au revoir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
À 18h21 sur les ondes de RCF, vous avez une habitude tous les soirs du lundi au vendredi, c'est de retrouver un maire qui vous parle. Jean-Pierre, promis, Marcel Bensivengo, maire de Hinchère, sera avec vous, mais un peu plus tard dans cette émission.
Aux alentours de 18h40 environ, on donne rendez-vous souvent au maire à 18h20. Eh bien, l'actualité a primé ce soir, on a donné priorité à Lourdes, en direct avec l'archevêque de Reims. Eh bien, nous retrouverons effectivement Alexis Marcel Bensivengo, maire d'Hinchère à 18h40.
Et puis Jean-François Boulanger, on a l'habitude de le retrouver à 18h10. Lui, il attend et on le retrouve dès maintenant à 18h21 pour regarder sur le monde. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Charles Piaget, le maître des horloges. Ainsi avez-vous intitulé l'émission du jour. La raison, ce 4 novembre est mort un militant ouvrier dont le décès est loin d'avoir fait la une de la presse, tant écrite qu'audiovisuelle d'ailleurs. Le temps semble avoir fait son œuvre. Alors pourquoi ce titre, Jean-François Boulanger? On le rappelle, Charles Piaget, le maître des horloges.
Alors, il y a une part d'ironie dans ce titre, parce que dans le monde qui est le nôtre, Piaget, c'est aussi le nom d'une marque de montres de luxe, un peu bling-bling, et ce n'est certainement pas le cas de Charles Piaget. Charles Piaget, c'était un ouvrier horloger de Lippe, une usine de fabrication de montres qui a mené une lutte contre la fermeture de l'usine, dont le souvenir est vif parmi tous ceux qui, à l'époque, selon l'expression de Maurice Clavel, considèrent que Lippe a fait rêver la France. Et Maurice Clavel, toujours lui, a présenté dans un livre les ouvriers de Lippe comme les paroissiens, je le cite, de Palante, du nom du quartier où se trouvait l'usine Lippe.
Drôle d'expression, les paroissiens de Palante. Pourquoi parler des ouvriers de Lippe ainsi?
Parce que cette lutte a été menée par des militants qui venaient de l'ACO, l'Action catholique ouvrière, et du catholicisme social, et qui militaient généralement à la CFDT. C'est le cas de Charles Piaget, et aussi d'un père dominicain, Jean Raguenès, prêtre ouvrier, qui, après la lutte des Lippes, est parti pour le Brésil, où il a fait partie de la commission pastorale de la terre, liée à la conférence des évêques du Brésil, qui soutenait la formation des travailleurs ruraux et leur lutte pour la terre, et qui est mort au Brésil, donc, en 2013.
Revenons-en tout de même à Charles Piaget, si vous voulez bien. Pouvez-vous nous le présenter en quelques mots, Jean-François?
Alors absolument, il est né en 1929, là où la tradition horlogère, à cheval sur la France et sur la Suisse, était extrêmement vivace. Son père était originaire de Suisse, où il avait reçu une formation d'horloger rabilleur, qualification qui faisait de lui un ouvrier très qualifié, capable de fabriquer une montre complète. Et sans doute les traditions horlogères de passage des frontières l'ont-ils fait arriver à Besançon. Son père, qui était un protestant non pratiquant, l'a élevé seul, mais justement parce qu'il était seul, il l'a confié souvent à une famille d'immigrés catholiques, italiens. Et c'est ainsi que Charles Piaget a reçu une éducation catholique. Et lorsque son père meurt en 1943, c'est cette famille d'immigrés italiens qui va prendre en charge son éducation. Il passe un CAP et un brevet d'enseignement industriel, l'ancêtre du BEP. Et il est embauché donc chez Lippe en 1946. Lippe, c'est alors la principale manufacture horlogère de la ville de Besançon. Charles Piaget y prolonge sa formation. Et donc, en même temps, il se syndique à la CFTC dès son premier jour de travail. Il va devenir délégué du personnel en 1953. Il entre à l'Action catholique ouvrière en 1954 et parmi ses camarades de l'ACO, de l'Action catholique ouvrière, il y a Roland Vito, un autre ouvrier de Lippe qui va accompagner effectivement sa trajectoire à la CFDT notamment. Et durant la guerre d'Algérie, Charles Piaget participe aux activités contre cette guerre, réunions publiques, il se souvient notamment d'un grand meeting réprimé, de manifestations, distribution de tracts, une activité qui l'amène à fréquenter les milieux politiques qui soutiennent cette cause. Et en 1958, il adhère à l'UGS.
Alors Jean-François Boulanger, si vous voulez bien, on va accélérer dans cette chronique rapidement. Qu'est-ce que l'UGS? Et puis dites-nous un petit peu comment il a adhéré à différentes associations syndicales, et notamment la CFDT. Comment on devient
finalement? Alors voilà, l'UGS, c'est la fusion de deux mouvements. La Nouvelle Gauche, qui regroupe des intellectuels proches de l'hebdomadaire France Observateur, l'Obs actuel, et le MLP, Mouvement de Libération du Peuple, créé par des militants de la CO. Quant à effectivement son passage à la CFDT, effectivement très vite il devient un militant très actif de l'équipe syndicale CFTC, et donc très rapidement aussi la CFTC, le syndicat minoritaire, va faire jeu égal à la CFDT au départ dominante. Et en 1964, la CFTC locale, et pas qu'elle d'ailleurs, se transforme en CFDT, et donc ainsi donc se crée un mouvement syndical dont Charles Piaget est un des animateurs qui va mener des luttes extrêmement importantes portant sur les salaires, les conditions de travail et la durée du travail.
Et sur le plan politique, quelle est son action?
Alors, il va passer de l'UGS au PSU, c'est logique. L'UGS est une formation qui contribue à la formation du PSU en 1960. La section PSU de l'entreprise regroupe une grande partie des dirigeants de la section syndicale CFDT et aussi de la CO. Et donc à ce titre, il figure en 1965 au titre du PSU sur une liste municipale conduite par un communiste. Sa candidature avait suscité de fortes réticences du PCF car, disait-on, des enfants allaient à l'école privée. Et encore en 1970, il est candidat PSU aux élections cantonales.
Et il va y avoir l'affaire LIP, à quel moment?
Alors l'affaire LIP, effectivement, ça sera très important. Parce que dès 1972, des signes inquiétants se manifestent dans l'industrie horlogère de Besançon, en particulier chez LIP. Et donc, en 1973-74, effectivement, on commence à parler de règlement judiciaire. Ça se passe en 73. Et la réponse syndicale, effectivement, est originale, car la CFDT, comme la CGT, décide non pas de se mettre en grève, mais de réduire les cadences de travail pour permettre aux salariés de populariser leur mouvement et de prendre conscience des enjeux. Et donc un comité d'action se crée autour du dominicain Jean Ragonès, dont nous avons parlé. La popularisation de la lutte se traduit par le fait que le 24 mai 1973, 5000 personnes manifestent pour les LIP. Et donc le 12 juin se tient la dernière séance du comité de l'entreprise. Le personnel est informé des discussions en cours par haut-parleur. Et donc un militant de LIP va dérouper la serviette d'un des administrateurs, et on découvre les mesures de restructuration, les licenciements qu'on avait cachés. On décide à ce moment-là d'occuper l'usine et de s'emparer d'un stock de montres qui existait, qui va devenir le trésor de guerre d'Elip, qui est clandestinement transporté, d'ailleurs dans un presbytère d'un prêtre de la haute montagne jurassienne. Et donc à ce moment-là, donc les LIP décident, sous l'impulsion de Piaget, de remettre en marche dans l'usine occupée la chaîne de production de montres, avec pour objectif de vendre les montres, avec le slogan suivant: on fabrique, on vend, on se paie, c'est possible. Et évidemment, ça illustre cette volonté.
Ça va être, j'allais dire, le point d'orgue du conflit LIP et peut-être ce qui en fait son importance, Jean-François Boulanger.
Ah oui, absolument,
Boulanger.
Parce que justement, ça, on parle d'autogestion, on en parle au niveau international. Donc les LIP commencent à vendre leurs montres à travers la France, y compris à Reims et à Chalon-sur-Marne. Et donc dans ce contexte-là, effectivement, les CRS le 14 août, alors que une paix sauvage a eu lieu le 2 août, les ouvriers se paient eux-mêmes. Donc le 14 août, les CRS expulsent les salariés de l'usine et Piaget déclare que l'usine est là où les travailleurs sont. Et donc ils s'installent dans le quartier de Palante, dans un gymnase concédé par la municipalité. Cependant que le père abbé de la paroisse de Palante prête le cinéma local pour que les assemblées générales puissent s'y développer.
Alors comment va se terminer ces affaires en quelques mots, Jean-François Boulanger, et est-ce que LIP va pouvoir perdurer à travers le temps?
Non, mal, parce qu'effectivement, les ouvriers ne veulent pas concéder le moindre licenciement, parce qu'ils ont été ensemble dans la lutte, ils veulent abandonner personne. Mesmer, le Premier ministre, déclare que LIP, c'est fini. À ce moment-là, Michel Rocard, le secrétaire général du PSU, et la Fédération générale de la métallurgie CFDT, en contact avec l'aile moderniste du patronat, tentent de mettre en place un accord de réembauchage, mais donc qui est signé le 26 janvier 1974, en échange de quoi les montres sont dérobées, sont restituées. Malheureusement, il n'y a pas de recapitalisation du capital, et donc à la rentrée de 1975, des défaillances de trésorerie se manifestent, conduisant en fait finalement au dépôt de bilan. Mais pour autant, la popularité de Charles Piaget reste forte.
Juste pour conclure, Jean-François Boulanger, sous quelle forme se manifeste cette popularité ?
Eh bien, par l'idée d'une candidature de Charles Piaget aux élections présidentielles de 1974, qui était mise à l'époque, mais qui n'a le soutien ni du PSU de Michel Rocard, qui soutient la candidature de François Mitterrand, ni du mouvement Lutte ouvrière, qui dit que Piaget va à la messe tous les matins, donc il n'est pas question de le soutenir. Et face à ce blocage, Charles Piaget se retire et la tentative échoue. Et c'est ce personnage qui vient de mourir à 95 ans. Son décès est survenu quelques mois après celui de l'ancien patron de l'Ypres à l'époque de la reprise, Claude Schneuschwender, qui est mort, lui, en août dernier.
Eh bien, en tout cas, un grand merci, Jean-François Boulanger, ce soir, de nous avoir présenté ce personnage ce qui en valait la peine, tout à fait. Et à très bientôt, Jean-François.
À très bientôt.
Eh bien, à très bientôt, Jean-François Boulanger. On aura l'occasion, bien sûr, de vous retrouver la semaine prochaine. Et nous regardons une montre qui n'est pas la montre LIP, mais qui est une montre qui joue l'exactitude de nos programmes. Il est un peu plus de 18h30, mais l'heure de retrouver le journal régional avec Alexis Claudretz.
Les titres de ce lundi 6 novembre, Jean-Marc Rose a été élu président du conseil départemental de la Marne. Il succède à Christian Bruyen. Il y a quelques jours, le restaurant inclusif et éco-responsable Rémois L'Extra était référencé au Guide Michelin. Nous sommes allés rencontrer les équipes pour cette récompense inattendue.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Jean-Marc Rose a été élu président du conseil départemental de la Marne ce lundi 6 novembre avec 32 voix contre 14 pour son adversaire Julien Valentin. Il succède à Christian Bruyen, devenu depuis peu sénateur de la Marne. Jean-Marc Rose.
Mais on savait que ce serait serré et je suis agréablement surpris d'avoir une victoire qui est quand même assez nette. Ce qui me fait dire que l'Assemblée a choisi quand même quelqu'un de peut-être bien expérimenté. Et puis surtout, je pense, mes qualités, mes compétences financières font qu'avec les années qu'on va traverser, qui sont quand même assez difficiles, ils ont plutôt misé sur quelqu'un comme moi qui, depuis un certain temps, connaît bien les finances locales.
Le Rémois Jean-Marc Rose ou le rural Julien Valentin, le nouveau président du conseil départemental de la Marne, clôt le débat.
Je trouve que le R de Rose, qui est devenu le R de Reims, c'est un peu agaçant. Pendant toute la campagne, j'ai entendu ça. Vis-à-vis de moi, c'est pas très élégant, puisque on doit regarder les personnes pour ce qu'elles sont et pas de où elles viennent. Enfin, c'est voilà. Donc, je suis né à Reims, bien sûr, mais j'habite, je l'ai déjà dit, depuis 35 ans à la campagne, donc à Murphy. Et puis, je suis quelqu'un de profondément juste. Donc, je l'ai prouvé déjà dans d'autres situations ici au Conseil. Lorsqu'il a fallu prendre des décisions qui n'étaient pas toujours à l'avantage forcément de Reims, eh bien, j'ai pris des décisions qui étaient justes et donc j'ai pris ces décisions qui étaient départementales et non pas rémoises. Donc je ne pense pas que je serai rémois dans mes fonctions de... Enfin, je ne sais pas que je ne pense pas, je suis certain que je serai un départementaliste.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne. Jean-Marc Rose est seulement le deuxième président du conseil départemental de la Marne d'origine rémoise depuis 200 ans. Il a annoncé dans la foulée de son élection qu'il va démissionner de son poste de deuxième adjoint à la mairie de Reims. Il restera malgré tout conseiller municipal. Jean-Pierre.
Simplement, vous allez sans doute le dire en bref, mais puisqu'on évoque la vie politique, vous allez sans doute l'évoquer, la disparition de Philippe Martin.
Effectivement, Jean-Pierre, l'ancien maire de Cumières et ancien député LR de la circonscription d'Épernay, entre 1993 et 2017, Philippe Martin est décédé ce dimanche 5 novembre à l'âge de 74 ans. Depuis plusieurs semaines maintenant, le restaurant inclusif et éco-responsable L'Extra est référencé au Michelin. Sur le site internet du Guide Rouge, la vie est dithyrambique. En face des Halles du Boulingrin, classé monument historique, ce restaurant est abrité au sein d'un bâtiment des années 1920 aux influences art. Nouveau. Joli projet, la majeure partie de l'équipe, en salle comme en cuisine, est constituée de personnes présentant un handicap mental. En cuisine, l'encadrement est assuré par un binôme expérimenté, constitué du chef Philippe Joly, ex-second du Foch, et du pâtissier François-Xavier Cormary. Dans un cadre épuré et contemporain, on pioche dans une carte actuelle bien tournée, espuma d'asperges sur tartelettes de jambon de Reims, aile de raie, risotto d'épeautre et jus d'ortie au beurre noisette, pavlova et tartare de fraises, sorbet fruits rouges, belle sélection de vins de champagne, de quoi flatter le chef Philippe Joly, très ému, qui ne s'attendait pas à cette nouvelle.
Pas du tout. Alors là, ça me fait même bizarre. Rien que le paragraphe avec mon nom est dedans, c'est super. Beaucoup d'émotions par rapport au travail abouti depuis quelques mois. Donc j'ai jamais été distingué par rapport aux autres restaurants où j'ai été travailler, quoi, en fait. Pourtant, j'ai fait surtout un pendant plusieurs années et j'ai jamais eu une récompense.
Un référencement que chacun savoure, mais le travail continue. Gonzague Peunier, directeur de l'Extra.
Sur le moment, il y a une fierté qui est ressentie par chacun et c'est bien légitime. Après, demain matin, on va se remettre à travailler et à corriger nos erreurs et à progresser pour aller plus loin dans la satisfaction des convives. Tous les jours, on remet le couvert, c'est un fait. Et tous les jours, il faut gagner la satisfaction des convives. Et la régularité, je crois que c'est un critère dans le référencement Michelin, la régularité pour le chef et ses équipes, et pour nous aussi en salle, de manière à ce que je suis rémois, français ou touriste étranger, je regarde le guide Michelin, je sais que ça va se tenir, quoi. Donc, bienvenue chez nous.
Des rencontres plus complètes avec le chef Philippe Joly et le directeur Mathieu Saint-Guilhem seront à, le directeur Gonzague Peunier et le président Mathieu Saint-Guilhem seront à retrouver prochainement dans les trois questions A de 7h40. Du sport et du football d'abord, le Stade de Reims excelle et est quatrième de Ligue 1 après sa victoire. Un 1-0 à Nantes hier après-midi. Chez les filles aussi, les rouges et blanches font bonne figure. Elles se sont imposées 2-0 à Bordeaux et se classent cinquième de la D1 Arkema avec un match en moins en Ligue 2, 3 se rassurent, victoire 2-1 contre Caen samedi, un succès qui permet à l'Estac de monter à la 16e place du classement en volet reçu 3-3 pour Chaumont en Liga. Les Haut-Marnais se sont imposés 3-7-1 à Poitiers, seule équipe à avoir fait le plein de points avec Tourcoing depuis le début de saison. Le CVB 52 est co-leader du championnat. En revanche, en basket, nouvelle désillusion pour le Champagne Basket, battu 83-88 sur son parquet par Saint-Chamond avec une seule victoire en 5 journées, l'Alliance champenoise est 16e de Pro B. Hors sport collectif, Jean-Pierre, je suis sûr que vous n'avez pas loupé cet événement du week-end. C'était un gala de boxe organisé à l'Arena de Charleville-Mézières samedi soir. En point d'orgue de la soirée, le boxeur ardennais de 22 ans, Yoni Valverde, s'est adjugé le titre de champion du monde Youth des poids super plumes en dominant au point le Mexicain Luis Ronaldo Ruelas. Une belle performance pour tous les Carolo Massériens qui se sont, j'allais dire, invités à l'événement.
Absolument, un ardennais champion du monde de boxe, écoutez, c'est quand même exceptionnel.
Et le maire de Charleville, d'ailleurs, Boris Ravignon, s'en est félicité sur les réseaux sociaux. Il était présent lors de cette soirée de gala. Avant de refermer ce journal, place à la météo avec Manon Bréval, notre nouvelle stagiaire à la rédaction depuis aujourd'hui. Bonsoir Manon, bienvenue à RCF Reims-Ardennes. Nos auditeurs feront ta connaissance dans le 3 questions A de RCF Reims-Ardennes lundi prochain à 7h40. Mais pour l'heure, ce qui nous intéresse, c'est la question que je vais te poser tous les soirs en fin de journal. Quelle tendance dans le ciel en Champagne-Ardennes pour ce mardi, Manon ?
Bonjour Alexis, bonjour à toutes et à tous. Globalement, mardi matin, la température se situera entre 7 et 9 degrés et pourra monter jusqu'à 13 degrés. Des petites averses seront présentes à l'est du plateau de Langres, comme à Romains-sur-Meuse et Bourbonne-les-Bains. N'oubliez pas vos parapluies. Pas de pluie pour les Ardennes, ni l'Aube et la Marne. Cependant, le ciel sera chargé de nuages tumultueux et couvert toute la matinée. L'après-midi sera moins sombre, des éclaircies qui s'annoncent sur tout notre joli territoire. Néanmoins, ce n'est pas le retour du grand soleil, car des nuages seront toujours présents le reste de la journée. Vos thermomètres afficheront des températures harmonisées en Champagne-Ardenne avec des minimales qui sont de 7 degrés et des maximales de 13 degrés. Le vent soufflera entre 15 et 25 km/h du matin au soir. Mais avant cela, temps gris et parfois de la pluie sont à prévoir pour ce lundi soir. Demain, nous mettons nos carines à l'honneur en célébrant leur fête. Bonne soirée à toutes et à tous.
18h39, merci Manon, le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Engagé dans une démarche éco-responsable et de réduction du nombre de véhicules circulant aux abords du Stade de l'Aube, l'Estac s'est associé avec Stadium Go, présentation du concept avec Christopher Fausten.
Une plateforme de covoiturage spécifique pour les supporters qui vont au stade, c'est ce qu'a développé Romain Lauvergnat en lançant Stadium Go.
C'est parti d'un besoin à la base qui était de voyager entre passionnés, parce que c'est toujours plus sympa quand on se rend à un match de partager sa passion, de refaire le match ou de parler du prochain mercato. Et donc sur cette base-là, on a construit ce qu'est aujourd'hui Stadium Go, donc qui est la plateforme de covoiturage dédiée aux événements sportifs, à travers laquelle on a pour mission notamment de réduire l'empreinte carbone de ces déplacements, mais aussi, encore une fois, de permettre à tout passionné de trouver d'autres supporters avec qui se rendre vers le stade. Et on ajoute à ça le côté pratique de réduire le nombre de véhicules et donc le temps de trafic et les bouchons à l'arrivée au stade. Et dans le meilleur des cas, faciliter aussi le fait de trouver une place. Et c'est le cas de ce qu'on fait notamment avec l'Estac.
La plateforme travaille directement et depuis peu avec l'Estac dans l'Aube et d'autres clubs de Ligue 1 et Ligue 2.
Là aujourd'hui, si je prends la Ligue 1, Ligue 2, donc avec la réforme, il y a 38 clubs. On approche de la trentaine. Donc on a pas mal de clubs, essentiellement en Ligue 1, mais aussi en Ligue 2, ça se développe pas mal, qui poussent, notamment sous l'impulsion de la Ligue de foot professionnelle, qui elle aussi s'engage sur les sujets environnementaux et au niveau de la mobilité. Aujourd'hui, un club de foot professionnel, il y a à peu près 70% de son bilan carbone qui est représenté par le déplacement des spectateurs et donc le covoiturage est un des leviers principaux sur lesquels on peut agir rapidement.
On parle de football, mais cette plateforme Stadium Go fonctionne aussi avec d'autres sports.
Aujourd'hui, on a entre 8 et 9 sports. Donc, on a du hand, du basket, du volley, des sports auto de temps en temps. Enfin, pas mal de choses, puisque nous, notre vocation, c'est de permettre à ou passionné de n'importe quel sport, finalement, de pouvoir trouver son covoiturage idéal. Et donc, effectivement, on a pas mal de clubs partenaires en hand. On en a aussi depuis plus récemment en basket et en hockey sur glace, notamment. Et puis, on va continuer sur cette lancée.
Parmi ces clubs, nous avons l'Estac qui a rejoint la plateforme, un partenariat qui permet de récompenser les supporters qui viennent au stade en covoiturage. Romain Lauvergnat.
Il y a deux volontés côté club. La volonté de s'engager sur le plan environnemental, comme tous les autres. Et donc, encore une fois, d'activer ce levier-là. Et le deuxième, c'est de proposer, on aime bien dire que nous, on vient enrichir la fan expérience, puisque finalement, le match commence dès que je pars de chez moi avec les autres supporters. Et donc, sur la base de ces discussions, nous, on est rentré en contact avec les stacks, pour leur dire de quelle manière on pouvait collaborer ensemble, avec toujours cette logique qu'on défend et à laquelle on croit beaucoup, qui est que demander aux gens de faire du covoiturage pour aller au stade, c'est presque leur demander de changer une habitude et donc il faut la récompenser pour l'inciter. Et donc l'Estac, comme beaucoup de nos clubs partenaires, l'a très bien compris, puisque aujourd'hui, si je fais du covoiturage, donc que j'ai au moins un passager à bord dans mon véhicule quand je vais au Stade de l'Aube, j'ai une place de parking gratuite qui va m'être offerte par le club pour me remercier de m'engager aussi dans la démarche à leur côté.
Une collaboration qui s'est créée tout récemment, peut-être prochainement, qui sait, avec le Stade de Reims, les Flammes Carolo ou encore le Champagne Basket. Fondée en août 2019, la plateforme Stadium Go a vite gagné en notoriété.
Ça s'est fait, entre guillemets, assez simplement, puisque le premier partenariat qu'on a signé, c'était avec la Ligue de foot professionnelle. Et donc, finalement, on avait un gage de crédibilité en termes d'image qui était assez dingue dès le départ et qui nous a permis ensuite de rentrer en contact pas à pas avec les différents clubs, ce qui fait qu'aujourd'hui, on en a une trentaine sur les 38. Et après, en termes de financement, alors nous, pour rentrer un peu plus dans le détail, on a deux modèles aujourd'hui. On a une application grand public, donc avec les 8 à 9 sports différents et donc un peu sur le modèle des plateformes du type Blablacar, Airbnb et d'autres. Il y a des frais de réservation qui vont être payés par le passager directement lorsqu'il va effectuer cette réservation, ce qui nous permet de financer le développement de la plateforme, l'équipe, etc., comme n'importe quelle entreprise. Et derrière, on a aussi un deuxième modèle où on vient créer des plateformes de covoiturage en marque blanche dédiées à un organisateur d'événements. Et là, ça va de toutes les tailles. On a aussi bien des clubs de foot comme l'AS Saint-Etienne en Ligue 2 ou la Coupe du Monde de rugby. Donc, c'est vraiment variable. Et là, ça permet d'avoir un service dédié, personnalisé, à ses couleurs, qui vient finalement s'intégrer pleinement dans l'écosystème déjà existant de l'organisateur.
L'application est disponible gratuitement sur Android et iOS. La plateforme est disponible également sur Internet à l'adresse suivante stadiumgo.fr. Plus d'excuses pour les supporters troyens, tous au stade désormais.
Merci Christopher. À noter que l'application Stadium Go est actuellement en maintenance. Elle sera de retour dans les prochains jours avec une nouvelle version. En attendant, vous pouvez consulter et vous inscrire sur le site stadiumgo.fr.
Le 18-19 sur RCF.
Et nous, tout de suite, on ne prend pas la destination du stadium, mais d'Inchères dans la Marne. Donc, on part à quelques kilomètres de Reims, retrouver un maire qui nous parle, Marcel Bensivengo, et l'édile d'Inchères. Il est avec Jean-Pierre.
Et monsieur Bensivengo, bonjour.
Bonjour monsieur Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est l'occasion pour nous de connaître votre commune, Inchères, et puis de savoir un petit peu quel a été votre parcours. Alors, la commune d'Inchères, est-ce que vous pouvez nous la présenter aujourd'hui? Combien d'habitants à Inchères?
Ah ben là, actuellement, on est à peu près 190 habitants, parce qu'il y a des gamins qui sont là de temps en temps, ils sont en études et tout ça. On est 190.
Vous avez des personnes qui sont là depuis longtemps, des personnes âgées, vous avez aussi des gens
oui,
qui veulent habiter Inchères.
Si on a à peu près 20-21 personnes de plus de 60 ans, et puis on a pas loin de 28 gamins jusqu'à 15 ans.
Est-ce que vous avez eu ce qu'on appelle l'effet Covid, c'est-à-dire des gens qui habitaient Reims et qui se sont dit ben, on va aller habiter à la campagne, peut-être qu'il y a des maisons un petit peu moins chères et puis on aura un jardin, on pourra respirer. Est-ce que vous avez senti oui. cet effet?
Oui, il y a eu quelques maisons qui ont été tant que vendues et c'est en général c'est des couples de jeunes qui viennent principalement de Reims, de Muison aussi, qui sont venus un petit peu à l'écart à la campagne parce que l'on est une commune quand même qui est même pas 25 km de Reims, c'est en accès pratiquement direct, sauf pendant les heures de bien sûr les heures de pointe, les heures de travail le matin, les heures de travail le soir. Et on n'a qu'une usine sur la commune de mécanique industrielle. Et autrement, c'est principalement donc c'est un village viticole et agricole et on est entouré de soit par les vignes, soit par les bois.
On peut dire quand même un village où il fait bon vivre.
Oui, on a quand même une certaine sérénité à vivre dans la commune. On ne peut pas bénéficier de tous les atouts de la ville comme Reims, c'est sûr. Hein. Bon, il y a quand même, c'est vrai qu'au niveau des activités, quand c'est le sport, quand c'est le cinéma ou la piscine, les gamins sont obligés de se déplacer principalement sur Reims, quoi.
Bien sûr, mais vous-même, est-ce que vous avez toujours été passionné par peut-être les associations, puis ça vous a conduit au conseil municipal et à la mairie?
Oui, si vous voulez, moi j'étais un ancien salarié de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, je m'occupais de la carte vitale avec les médecins, pendant mon activité professionnelle, j'ai été secrétaire du comité d'entreprise, à l'époque on était quand même plus de 600 personnes avec Reims, Épernay, Chalon et Vitry, et en même temps j'ai fait 5 années à peu près de mandat prud'homal.
Donc tout ça, ça vous a conduit naturellement, ça vient presque naturellement. On vous a demandé d'être maire au fond, au conseil municipal.
L'ancien maire donc est décédé malheureusement, et bon j'étais conseil municipal. Puis bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde pour prendre le relais quoi. Je me suis lancé là-dedans en ayant une activité, comme je vous dis, j'étais secrétaire d'entreprise et puis une activité prud'homale, mais au niveau de la commune et tout ça, je ne connaissais absolument rien. Il a fallu que je me forme, que je m'instruise auprès de mes collègues et puis auprès des différentes instances. Quoi.
Alors certains disent que surtout la politique aujourd'hui est quand même relativement décriée, il faut bien le reconnaître, mais le maire, c'est pas pareil. Le maire, c'est un élu de proximité et beaucoup d'élus qui ont été députés, sénateurs, tout ça, qui disent... La fonction de maire, c'est une fonction où on est proche. On vous aborde dans la rue, parfois pour vous féliciter, mais comme disait Gérard Larcher, le président du Sénat, parfois, on va être vulgaire sur notre antenne. On va se faire... il y a des gens qui vont nous critiquer, mais un peu se faire engueuler, non, de temps en temps.
Mais bien sûr, parce que nous, on est, comme on peut dire, en première ligne de front, quoi. Hein. C'est-à-dire, quand il y a des mécontentements, je ne parle pas au niveau, politique, mais je veux dire, tous les... les problèmes de que ce soit les problèmes de voisinage, les problèmes de bruit, les problèmes de vitesse dans la commune, les vœux de certains pour l'amélioration du cadre de vie de la commune. Il y a des demandes forcément, mais aussi, comme je le répète assez souvent à certains, je veux dire, en tant que citoyen, on a des droits, mais aussi on a des devoirs. Mais le problème, c'est que malheureusement aujourd'hui, force est de constater qu'il y a quand même, c'est un problème un petit peu général dans les communes, parce qu'on a un agent communal qui fait plusieurs communes, et il a les mêmes réponses à ce niveau-là, c'est que les gens sont souvent, comment dirais-je, agressifs malheureusement. C'est pas toujours facile, hein. Comme on dit, faut être très très diplomate, et bien, de temps en temps, faut mettre un petit peu de poing sur la table pour remettre les choses dans l'ordre.
Absolument, voilà. Oui. Alors, on peut dire, vous qui êtes maire d'un Cher, est-ce que vous avez eu des projets qui viennent de se terminer? Est-ce que vous en avez à moyen, à court terme, plus long terme? Est-ce que vous avez des choses à réaliser avec votre commune?
Oh que oui. Malheureusement, c'est vrai que depuis que j'étais maire, il n'y avait pas eu vraiment de gros travaux, donc il a fallu faire des travaux, ne serait-ce que déjà en premier temps dans la mairie, parce qu'il était complètement vétuste, il a fallu le réhabiliter. Après, on a fait le columbarium, il y a une partie de la voirie qui a été refaite, et là on a un gros chantier au niveau de la traverse de la commune, parce que on a un problème de trottoir d'accotement, parce que ça n'avait jamais été fait, quoi. Donc comme la commune a été pratiquement détruite en 14-18, et malheureusement les trottoirs et tout ça, c'est tout à refaire, du moins la partie principale qui traverse la commune jusqu'à la place de la mairie.
Voilà, des travaux de voirie essentiellement à un Cher. On aura l'occasion de retrouver Marcel Bensivengo, le maire d'un Cher, dans nos prochaines éditions. Et bien sûr, votre maire nous parle, c'est demain midi.
18h51 sur les ondes de RCF, le 18-19 en Champagne continue.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Allez Jean-Pierre, d'un mot, le maire demain.
Le maire demain, c'est Anne Desvéronnières, elle est maire de Pomacle dans la Marne.
Et nous, on prend la direction d'Auger où l'association Canapé a posé mi-octobre la première pierre de la future serre destinée à sécuriser la production de plants de vigne pour le vignoble du quart nord-est de la France. Une grande première pour la viticulture du nord de la France. Pour nous en parler, Thibaut Hubert, président de l'association Canopé avec Christopher.
Bonjour Thibaut Hubert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ligne sur RCF. Trois régions parmi les plus importantes de la France viticole, Beaujolais, Bourgogne et Champagne, se sont associées pour le projet Canopé, consistant en la construction d'une serre de conservation et de prémultiplication du matériel de base pour les plants de vigne. Ma première question toute simple, Thibaut Hubert, pour quelle raison avoir construit cette serre?
Deux raisons. La première, c'est la conservation, l'aspect conservatoire, où là, c'est vraiment mettre dans un coffre-fort notre patrimoine de matériel végétal pour qu'on puisse le sauvegarder pour les générations futures. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, avec le changement climatique et tous les aléas qu'on peut avoir, il est important qu'on sécurise cette partie-là pour les générations futures et pour le vignoble français en général. Et la deuxième, c'est une innovation technique, c'est lutter contre les viroses, toutes les maladies du bois qui explosent avec ce changement climatique, et garantir un état sanitaire au plus près de la multiplication, donc de la greffe qui va être vendue aux vignerons. Donc une partie conservatoire, coffre-fort pour notre patrimoine de matériel végétal, et une partie sanitaire, garantir l'état sanitaire de nos plants.
Alors, une grande première pour la viticulture du nord de France, hein, donc avec ses trois territoires, Beaujolais, Bourgogne, Champagne. Le 17 octobre dernier à Auger, l'association a posé la première pierre de la future serre destinée donc à sécuriser la production de plants de vigne, hein, pour le vignoble du quart nord-est de la France. Parlez-nous un petit peu de cette future serre en termes de superficie, de sa situation géographique. Alors, on disait du côté d'Auger.
Oui, alors effectivement, ça va se faire en Champagne. Pour différentes raisons. La première, c'était vraiment budgétaire et du point de vue des subventions, puisque la région Grand Est était éligible à des subventions européennes. On n'était pas, nous, éligibles en Bourgogne-Franche-Comté ou en Aura à cette subvention. La deuxième, c'est la situation géographique. Il fait un peu plus froid que chez nous, au sud, en Champagne, et on a besoin de froid, et je vais vous expliquer pourquoi techniquement on a besoin d'avoir des variations de température entre l'été et l'hiver. Elle va faire 4 500 m², est énorme, donc avec une partie qui sera pour le coffre-fort, le conservatoire, 1 000 m², et 3 500 m qui va être là pour le développement de porte-greffes, de pinots, enfin de différents cépages qu'on utilise dans nos trois régions.
Un projet innovant, une grande première, mais pourquoi ces trois régions précisément, Thibaut Hubert?
Déjà parce qu'on a des cépages en commun. Le Gamay, le Pinot Noir, le Chardonnay, c'est des cépages qu'on retrouve sur l'ensemble de ces trois régions. Et j'inclus avec nous le Jura, qu'il ne faut pas oublier, puisque le Jura fait aussi partie du projet Canopé. c'est une région qui, elle aussi, est sur du pinot noir, etc. Donc, on a quand même un catalogue de cépages qui sont assez similaires. On a aussi des types de sols assez similaires, à savoir des sols avec un taux de calcaire actif assez important. Il était normal qu'on se regroupe. Et en plus, on mutualise les moyens financiers, puisque quand même, cette serre de 4 500 m², elle est insecte-proof et bioclimatique, c'est-à-dire qu'il y a des filets partout, des sas pour éviter que tous les insectes ne puissent rentrer, pour garantir justement des viroses qui sont transportées par les insectes. Et en plus, elle est bioclimatique pour pouvoir reproduire le climat. Et j'en reviens à cette question de la géographie et de la situation géographique de la serre. Elle est en Champagne parce que les hivers sont un peu plus froids, ce qui nous permettra de faire des économies d'énergie pour justement tempérer cette serre. Il est très très important, techniquement parlant, qu'on ait une serre bioclimatique pour reproduire un climat tempéré avec des étés et des hivers normaux, ce qu'on a de moins en moins.
Thibaut Hubert, président de l'association Canopée, avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous présenter cette future serre située précisément dans la commune de Blancoteau, sur le site d'Auger en Champagne, sur une surface, on le disait, de 4 500 m², en collaboration avec les trois régions viticoles, très importantes, Beaujolais, Bourgogne et Champagne. On peut le dire, Thibaut Hubert, que c'est un projet à la fois collectif, innovant et surtout ambitieux.
Tout à fait, oui. Le collectif, ça c'est la mutualisation, ça ne s'était jamais fait entre trois grosses régions, comme vous venez de le dire. Innovant, parce que 4 500 m² de serre bioclimatique et insecte-proof, c'est un défi technique. Et challengeant d'un point de vue aussi technique, parce que c'est la première fois qu'on va mettre sous serre bioclimatique des porte-greffes. On a là un petit challenge technique, on ne sait pas trop si ça va marcher. On est très très attendu en France, mais dans le monde entier, pour savoir si on va être... Ici, on va avoir une production suffisante pour pallier à toutes les attentes. Parce qu'on n'a pas parlé de ça, d'où ça vient, ce projet de serre confinée et bioclimatique. Il y en a 3-4 en France qui vont se monter. C'est parce qu'il y a une évolution du protocole sanitaire qui est faite par le gouvernement pour essayer de garantir l'état sanitaire des plants au plus près. Parce qu'aujourd'hui, le vignoble français dans son intégralité, on estime qu'il y a 10% de ce vignoble qui est atteint de maladie. Moi, j'estime sur le quart nord-est, sur les trois régions qui nous concernent avec le Jura, on est plus à 20-25% de notre vignoble qui est malade, qui dépérit, qui est chétif, qui a des pertes de rendement importantes. Donc, on arrive là dans une génération qui va devoir replanter la totalité du vignoble français. Et aujourd'hui, la filière n'était pas organisée pour pouvoir faire face à ça. Donc, il était très important de se lancer dans ces projets, même si ça est challengeant un peu techniquement.
Un projet important, un financement conséquent. On peut évoquer quelques mots sur le plan financement, Thibaut Hubert ?
C'est énorme, j'en conviens. Et c'est 8,2 millions de coûts d'investissement. Et c'est pour ça qu'on a eu la chance d'être soutenu par l'Europe à hauteur de 60%. Donc, vous imaginez, c'est presque 5 millions du budget qui arrivent de l'Europe, mais aussi de toutes les collectivités territoriales. Et alors là, pour le coup, je les salue parce que ce soit... les régions, les départements des trois régions qui nous ont aidés dans notre contrepartie nationale qui est obligatoire pour générer des fonds européens. Et ils nous ont suivis, on a pu boucler ce budget et j'en suis très heureux. Et voilà, on a abouti à la pose de la première pierre le 17 octobre. Rendez-vous donné au 30 juin 2024, puisqu'il faut qu'on ait fini ces travaux le 30 juin 2024 pour être toujours éligible à ces subventions. Donc, vous voyez, ça va aller très, très vite. Et il faut qu'on sorte les premiers plans fin 2026, début 2027. Donc, on a un calendrier qui est très cadencé. Il ne faut pas qu'on prenne de retard, puisqu'il faut qu'on soit en état de marche très, très rapidement.
Mais bon, vous êtes optimiste sur le calendrier.
Je suis très confiant. On a une équipe qui est là, qui est très, très organisée, qui est pilotée donc, par un conseil d'administration, par un comité technique. Il y a beaucoup de professionnels qui s'impliquent. Donc, ça, c'est très, très bien. Ça montre l'intérêt de ce genre de projet et de cette sauvegarde de notre patrimoine du vignoble français.
Merci beaucoup, Thibaut Hubert, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, président de l'association Canopée, en partenariat avec ces trois régions viticoles de France, trois régions les plus importantes de la France viticole, Beaujolais, Bourgogne et Champagne, pour cette future serre du côté de Blancoteau sur le site d'Auger en Champagne. Merci beaucoup et bonne continuation à vous.
Merci, bonne journée.
Merci à vous également, Christopher. La mise en service du site est prévue pour fin juin 2024 avec les premiers plans disponibles en 2027. Bonne soirée, Jean-Pierre.
Bonne soirée, Alexis, et rendez-vous demain à 18h10.